Radio Libertaire, la voix sans lune et maître de la Fédération anarchiste, c'est le troisième lundi du mois, la société dans tous ses états, Mohamed au micro, Lulu à la technique, bonjour Lulu.
Salut.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Morena. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Pour son livre paru récemment aux éditions La Découverte, Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique. Le film passé il y a quelques 2 ans, je crois, qui s'appelait Don't Look Up, alors sans dévoiler complètement, sans spoiler ou divulguer, comme on dit, à ceux qui et celles qui ne l'auraient pas vu. Met en scène un des personnages qui représente de manière assez caricaturale et de manière aussi très critique et satirique un personnage de milliardaire, un petit peu psychopathe. Hein,
oui, c'est le moins qu'on voilà, puisse dire.
Mais quelqu'un a dit que pour être milliardaire, il fallait développer une certaine forme de psychopathie. En tout cas, ce personnage de milliardaire un peu psychopathe, devant une catastrophe imminente, va chercher à en tirer profit,
hein,
et donc va détourner à son profit tout ce qui a finalement été mis en place pour tenter de déjouer ou de détourner cette catastrophe. Et quand son plan finalement va complètement échouer, et ben, il va se barrer avec ses amis, ses proches, la présidente de la République, ça se passe aux États-Unis, à bord d'un vaisseau spatial et pour partir vers une lointaine destination. Ça nous rappelle quelques personnages.
Oui, voilà, c'est sûr, oui.
Tu traites donc dans ton livre Fin du monde et petits fours, de la latitude des puissants et des milliardaires face à cette crise climatique. Tout d'abord, on va te présenter, hein, tu t'intéresses à cette question dans le cadre
de mes recherches.
De tes recherches.
Ouais, donc ça fait on est quoi, on est en 2023, ça fait au moins depuis, à peu près 2012 que je m'intéresse vraiment au débat climatique au niveau international. Mais à l'origine, en fait, je travaillais essentiellement sur les mouvements, donc les mouvements climat, donc les ONG, les mouvements sociaux, etc., qui étaient actifs autour des questions climatiques au niveau international. Et c'est un peu de fil en aiguille que j'ai été amené à m'intéresser à ce que j'appelle les élites climatiques, notamment par le biais de la philanthropie. Parce qu'en travaillant sur ces mouvements, notamment, je me suis beaucoup intéressé dans la période qui a précédé la COP21 à Paris, plusieurs des personnes que j'avais interrogées, donc de mouvements climat ou d'ONG, m'avaient parlé justement de fondations philanthropiques et du fait que ces fondations philanthropiques, finalement, elles avaient aussi un rôle assez important dans le débat, qu'elles cherchaient aussi, notamment par le biais de leur financement, à influer ou en tout cas à orienter en quelque sorte le débat sur le climat. Donc c'est un peu comme ça, du coup, que je me suis intéressé à la philanthropie et puis par la suite, du coup, je me suis intéressé aux philanthropes. Et c'est un peu l'objet de ce livre, c'est plutôt du coup de s'intéresser un peu aux personnes qui sont notamment derrière ces grosses fondations qui sont actives autour de la question climatique.
Il y a énormément de références et tu cites des organisations, tu cites des fondations, tu cites des personnes. J'imagine que pour accéder à toute cette masse d'informations, tu as dû... Comment tu t'y es pris? On va parler d'une petite question de méthodologie, sans être forcément dans les détails. Mais
oui, je ne veux pas... effectivement, la méthodologie, elle est importante, elle est compliquée, et je pense que n'importe quel sociologue ou politiste qui travaille sur les élites, il partagera un peu les mêmes difficultés que moi, c'est-à-dire que c'est très difficile d'analyser et d'étudier les élites. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a plutôt tendance en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est que parfois, on a tendance à plus facilement s'intéresser aux mouvements climatiques parce qu'ils sont aussi plus accessibles plutôt que sur les élites climatiques. Alors après, du coup, il faut déployer toute une série de stratégies. Alors moi, pour le coup, c'est vraiment... c'est un peu une fois qu'on a réussi à prendre contact, à discuter avec un individu, ensuite un peu par le biais de contacts interpersonnels, ils nous mettent en relation avec d'autres. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pu tisser aussi une sorte de réseau d'informateurs, de personnes dans cet espace ou dans ce milieu, dans ces organisations que j'analyse, qui étaient aussi prêtes à parler aussi de leur expérience. Et ce qui était aussi intéressant à voir, c'est que certains étaient vraiment assez intéressés par le projet, justement parce que ils se posaient eux-mêmes en fait tout un tas de questions sur leur propre travail, le sens aussi qu'ils donnaient à leur travail en travaillant pour ces grosses fondations, etc., etc. Donc ça a été des sources vraiment précieuses d'informations. Et après, ce qu'on retrouve aussi, alors c'est aussi peut-être une des caractéristiques des élites, ou du moins des élites que j'étudie, notamment des personnages comme Jeff Bezos ou Al Gore, etc., c'est qu'ils ont quand même tendance à avoir des égos assez surdimensionnés. Et du coup, en fait, ils sont assez... ils parlent beaucoup, en fait. Et du coup, sur Internet, où on arrive à trouver énormément de discours, de matériaux, en fait, où finalement... De façon très explicite, finalement, il dit ce qu'il pense. Et ça renvoie encore une fois à une forme, peut-être aussi à une sorte de sentiment d'impunité chez ces personnes-là, qui fait que, finalement, ils n'ont aucun mal à parler ouvertement de ces choses-là.
Tu commences ton enquête par la description d'un dîner dans un des quartiers les plus riches de Londres, une soirée à Belgravia.
Ouais.
Belgravia, c'est un des quartiers les plus chics de l'ouest de Londres.
Ouais.
Et tu montres donc comment les gens qui ont intérêt à stimuler le ce qu'on va appeler dans la suite de notre entretien le capitalisme vert, comment ils s'organisent entre eux. Tu peux nous décrire un petit peu cette scène introductive en quelque sorte que tu gères?
Oui, alors c'est une soirée qui a été organisée en 2007, donc effectivement à l'ouest de Londres, à Belgrade, dans un quartier qui s'appelle Belgravia, mais en fait dans un endroit qui s'appelle le Cadogan Hall. Et donc c'est une soirée un peu privée, enfin un peu exclusive, qui a été organisée par un individu qui s'appelle George Polk, dont je parle un peu dans le livre. Et en fait, c'est en gros l'idée, c'est de rassembler dans un même endroit les élites économiques, en tout cas d'attirer les élites économiques vers cette soirée pour leur parler à la fois, enfin pour leur parler climat. Donc à la fois leur parler du problème en leur disant voilà. Enfin, donc ils ont amené James Hansen, donc un scientifique assez connu américain qui était une des premières personnes à vraiment en fait sonner l'alarme sur le changement climatique dans les années 80. Donc ils l'ont ramené lui pour un peu faire un peu un état des lieux de la science du climat. Et en même temps, ils ont ramené aussi tout un tas d'autres acteurs qui étaient là aussi pour présenter les solutions en fait face à ce problème. Donc c'était des entrepreneurs, c'était des investisseurs, c'était tout un tas d'acteurs qui finalement étaient là pour parler de marché carbone, pour parler aussi de technologie capter le carbone, etc., etc. Donc c'était un peu une sorte de soirée. En gros, l'idée, c'était de se dire, voilà, en 3-4 heures, on va attirer donc ces personnes. Donc c'est encore une fois des personnes plutôt issues en fait des milieux les plus favorisés, notamment de Londres, dans une sorte de jet set londonienne, de l'attirer pour la mobiliser ou la convaincre d'agir et de s'engager en fait sur le climat. Et pour moi, c'est assez révélateur, enfin c'est assez représentatif aussi des stratégies en fait qui sont déployées par ces élites climatiques que j'analyse, c'est-à-dire qu'en fait ils cherchent aussi à mobiliser en fait les élites économiques, à essayer de les convaincre en fait que c'est dans leur intérêt de classe de s'engager en fait dans le débat climatique. Et ce travail, il a lieu essentiellement dans des espaces fermés, dans des soirées fermées, des choses qu'on voit pas en fait. Donc c'est un peu ils mobilisent, ils se servent de l'entre-soi pour essayer en fait de générer ce que j'appelle une sorte de conscience climatique de classe qui, ils l'espèrent, faire qu'ils réussiront du coup à orienter les politiques climatiques dans une direction qui serve justement leurs intérêts de classe.
En fait, voilà, ils ont fait le constat de cette crise climatique. Mm-hmm. Ils sont pas du tout dans l'optique un peu climato-sceptique ou négationniste, voilà, comme on a pu le voir chez certaines personnes autour de Trump, par exemple. Se rendant compte de la réalité de cette crise, ils se rendent compte que leurs intérêts sont directement menacés. Mm-hmm. Pour ce faire, il faut qu'ils s'organisent pour maintenir finalement cette position dominante qu'ils ont acquise et qu'ils veulent à tout prix préserver.
Oui.
Et alors, tu l'as évoqué dans ce que tu viens de nous dire, on va inventer des tas d'outils qui vont permettre d'orienter les politiques publiques. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'orienter les politiques.
Oui, c'est d'orienter, orienter le débat, à la fois orienter, il y a deux dimensions pour moi, il y a à la fois orienter le discours, donc il y a une sorte de logique de construction d'un discours hégémonique, en fait, sur quelles solutions apporter à la crise climatique. Et effectivement, associé à ce discours, il y a aussi des choix ou des politiques bien spécifiques. Donc ça veut dire certains types de solutions, en fait, des solutions essentiellement de marché, des solutions aussi, souvent aussi, qui implique une forme de technosolutionnisme, plus ou moins à grande échelle, mais aussi, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est fondamentalement cette idée, en fait, que ce sont les investisseurs, les entreprises qui vont porter la transition bas carbone. Donc ça veut dire aussi, quelque part, attribuer aussi un rôle très spécifique à l'État. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui, notamment avec, en fait, toute cette sorte de politique industrielle ou le retour de la politique industrielle en France, et notamment par rapport à la question de la transition bas carbone. Là, quand on regarde ce que ça sous-entend, ça sous-entend pas finalement un État qui va directement, on va dire, investir dans la transition, qui va créer un service public de l'énergie propre, etc. C'est en fait un État qui va, pour reprendre les termes d'une économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniela Gabor, il va dérisquer les investissements privés. Donc en fait, c'est cette idée que l'État, par le biais de crédits d'impôt, par le biais de tout un tas d'aides, il va subventionner les acteurs privés, les entreprises privées. Et du coup, il va prendre aussi à sa charge les risques liés à la transition bas carbone. Donc, c'est vraiment cette idée de privatiser les profits éventuels liés à la transition et de collectiviser les risques en les faisant porter par la société dans son ensemble. Et ça veut dire aussi faire des choix. Donc, ça veut dire, du coup, réduire les dépenses dans le système de santé, réduire les dépenses dans le système de retraite, de l'éducation, et de redistribuer cet argent-là vers, en fait, des crédits d'impôt et vers tout un tas d'aides qui sont en fait, c'est de l'argent gratuit qui est donné finalement à ces acteurs privés dans l'espoir qu'ils portent la transition bas carbone. Donc c'est ça aussi qu'ils cherchent à promouvoir et à pousser. Et encore une fois, si l'on tient compte des politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, qui a une grosse dimension autour de la transition bas carbone ou de la transition énergétique, mais aussi quand on regarde le New Deal vert européen, bah fondamentalement, c'est ce genre de politiques qui sont mises en œuvre. Et encore une fois, ce sont des politiques qui, au fond, renforcent la position de ces acteurs privés, vraiment contribuent à les positionner au cœur de la transition et qui contribuent aussi à minimiser les risques, en fait, pour ces acteurs-là, à faire que finalement, ils prennent aucun risque, en fait, en investissant dans la transition bas carbone. Au contraire, et que finalement, d'ailleurs, ils peuvent en tirer un énorme profit.
Justement, on va venir à cet intérêt, donc, et aux profits qui sont promis. Il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent. Par exemple, on découvre le marché du carbone, on découvre la finance du carbone, la finance verte. On s'aperçoit que Londres devient le siège des sociétés d'investissement dans le CO2. C'est-à-dire que le carbone, le gaz carbonique, devient un actif,
en fait,
qu'on s'échange sur les marchés.
Absolument, c'est ça. Alors ça renvoie encore une fois à cette notion, au principe même de ce qu'on peut appeler un peu le capitalisme vert. C'est, au fond, c'est cette idée que ça renvoie un peu à leur discours qu'ils portent. C'est, au fond, cette idée qu'en fait le capitalisme, effectivement, il a une part de responsabilité importante dans la crise. Donc il y a en fait une sorte de reconnaissance. Ils admettent que le capitalisme est responsable en grande partie de la crise climatique. Et en même temps, ils disent que le capitalisme est réformable. Et du coup, en fait, et pas réformable, ce qu'ils entendent, et c'est là où ça renvoie à cette idée de mettre un prix sur le carbone, cette idée d'intégrer, de tenir compte de ce qu'ils appellent les externalités négatives. C'est-à-dire, en fait, les conséquences, en fait, du système économique sur, notamment, le milieu naturel, sur le climat. Donc, pour intégrer, finalement, les conséquences du capitalisme sur le milieu naturel, il faut mettre, leur argument, c'est de dire, il faut mettre un prix, justement, sur la nature, il faut mettre un prix sur le carbone. Et donc, à partir du moment où on arrive à mettre un prix sur le carbone, ben, en fait, le carbone va prendre de la valeur et, de fait, il va être, du coup, pris en compte aussi dans le système économique, et du coup, il va être pris en compte aussi dans les décisions économiques qui vont être prises. Et donc, pour eux, c'est ça la solution. C'est finalement d'étendre cette logique de marché au milieu naturel, à des choses qui, jusque-là, finalement, avaient une valeur, mais ce n'était pas une valeur financière. C'était une valeur qui était assez abstraite en fait, qui renvoyait plus au, enfin l'ordre des émotions, des sentiments, enfin tout un tas, mais aussi il y avait aussi
un patrimoine commun.
Alors effectivement après pour les populations indigènes et tout ça dans tout un tas de pays, c'est aussi une source de nourriture, etc. Mais il y avait pas une valeur financière en fait,
une valeur marchande.
Donc effectivement à partir du moment où le carbone devient une marchandise, et c'est leur argument, bah, ils estiment que dès qu'il a une valeur marchande, mais du coup, on va commencer à le valoriser et du coup, on va chercher à le protéger.
C'est le thème de l'ouvrage Natural Capitalism,
oui.
Hein, que tu cites. Donc, valoriser correctement le capital naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles et les systèmes écologiques qui rendent la vie possible et désirable sur cette planète.
Oui, hein,
c'est vraiment une démarche. Alors, dans tout ça, il y a l'omniprésence de la technologie. On nous vante donc le techno-solutionnisme.
Ça, c'est une autre dimension. Alors, encore une fois... c'est aussi important de souligner que finalement, même si ils ont une sorte de conscience climatique de classe, il y a aussi des nuances en fait au sein même de ces élites. En fait, il y a d'un côté ceux qui, pour le coup, alors par exemple sur les questions des choix technologiques, en fait, il y a différents positionnements. Par exemple, sur les questions du nucléaire, vous allez avoir quelqu'un comme Bill Gates qui est à fond sur le nucléaire, et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui au contraire sont plutôt même critiques du nucléaire et promeuvent le solaire et l'éolien. Donc déjà sur la question des choix technologiques, il y a quand même des différences entre les acteurs, mais fondamentalement, ce qui les rassemble, c'est vraiment cette idée que l'innovation va être aussi un élément central en fait pour réussir à résoudre le problème. Et ça, pour moi, ça renvoie aussi au fait que de très nombreux acteurs qui sont impliqués, que j'ai analysés, qui sont très impliqués dans le débat, sont des acteurs aussi qui ont un lien en fait avec la technologie et l'innovation. Donc, on prend l'exemple de Jeff Bezos ou Bill Gates aussi. Bah, c'est des gens qui ont bâti leur fortune, notamment grâce en fait au développement d'Internet, des ordinateurs, etc., etc. Donc en fait, ils ont aussi fondamentalement cette sorte de croyance en fait dans la technologie comme source de bien-être pour l'humanité. Donc en fait, ça c'est vraiment un élément qui transparaît vraiment à travers leur discours, cette idée qu'effectivement l'innovation, la technologie est un élément central en fait de la solution. Et pourquoi ? Et là, on voit aussi bien le lien avec des intérêts économiques. En fait, on voit bien aussi que, quelque part, c'est aussi... Enfin, voilà, ils ont intérêt à tenir ce discours, tout simplement, parce que, quelque part, ils incarnent et ils représentent aussi le secteur des nouvelles technologies, quoi.
Il y a un personnage qu'on va quand même citer, puisqu'il il apparaît... très vite dans ton ouvrage, et puis on le retrouve un petit peu tout au long du livre. Il s'agit d'Al Gore,
ouais,
qui est quand même quelqu'un d'assez important dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut rappeler?
Oui, alors Al Gore, c'est l'ancien vice-président, ouais. donc à l'époque où c'était Bill Clinton qui était président des États-Unis. Il a été candidat aussi à la présidentielle en 2000, et donc il y a eu toute une histoire, parce qu'effectivement...
il avait contesté les résultats.
Ouais. C'était très serré, ouais. Et du coup, c'était entre lui et George Bush Jr., enfin George W. Bush. Donc c'est un homme politique, mais c'est aussi, et d'ailleurs c'est un fils d'homme politique, en fait son père était sénateur, donc il, voilà. Mais aussi c'est quelqu'un qui très tôt s'est à la fois intéressé au niveau technologie. Donc dans les années 90, il faisait vraiment, il faisait partie de ce qu'ils appelaient les Atari Democrats, donc les démocrates Atari, donc qui était vraiment un groupe d'élus démocrates qui était très porté sur la promotion des nouvelles technologies, et notamment en fait avec le développement de l'ordinateur personnel dans les années 90. Et donc encore une fois, la côte ouest, la Silicon Valley, ils défendaient vraiment en fait ce modèle. Cette idée que finalement, à travers les nouvelles technologies, on allait pouvoir en fait amener de la prospérité aux États-Unis. Et aussi, et c'est en parallèle, dans les années 90, il s'est aussi intéressé très tôt à la question environnementale et climatique. Il a publié des bouquins dans les années 90 sur ces questions-là, etc., etc. Donc c'est pour moi un personnage intéressant, parce qu'il a à la fois un engagement en fait d'assez longue date sur ces questions environnementales, mais aussi depuis très longtemps, il est aussi porteur d'une certaine idée en fait de ce que doit être la transition bas carbone. C'est-à-dire une transition qui vraiment place aussi en son cœur justement ces acteurs, notamment les acteurs de la tech, comme étant en fait vraiment centraux à la transition. Et d'ailleurs, il est... après son échec en 2000, il est rentré dans le conseil d'administration d'Apple, de Google. Donc il est encore, je crois, à Apple. Donc il est très proche finalement des milieux des nouvelles technologies. Et en même temps, en fait, c'est aussi un peu toute la difficulté avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui, aux yeux aussi du grand public, est aussi très associé à la question climatique, notamment par le biais de son documentaire de 2006, Une vérité qui dérange, qu'il a un peu propulsé comme... un peu figure aussi, quelque part, du mouvement climat. Et d'ailleurs, on le voit dans différentes manifestations, et on le voit aux côtés de Greta Thunberg, on le voit en fait aussi comme... voilà, donc c'est un personnage assez ambivalent, en fait, qui cultive aussi cette image d'être un sort de militant, un activiste de la cause climatique, et en même temps, par le biais notamment de ses activités économiques, parce qu'il est aussi à la tête d'un fonds de gestion de patrimoine, enfin un gestionnaire d'actifs, il est aussi, enfin ses activités économiques aussi sont très liées finalement aux intérêts en fait des élites économiques et aussi à la question du capitalisme vert.
J'habitais une maison aussi imprenable, une rivière et des poissons, une forêt d'érables, ondulait en contrebas, du champ pissait mon drap, tu t'y sentais bien, mon fils, tu t'y sentais bien, tu t'y sentais bien, mon fils, tu t'y sentais bien. Un an plus tard, un an plus tard, mais d'où vient cette fumée à couper au sabre qui nous a tous enrhumés et noirci les arbres. Elle a tout empoisonné jusqu'aux nids les plus douillets. Il n'y a plus d'oiseaux, mon fils, il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux, mon fils, il n'y a plus d'oiseaux. Deux ans plus tard, deux ans plus tard, mais d'où vient tout ce remue ménage? Tous ces hommes, toutes ces grues construisent un barrage. Ils ont coupé la rivière avec du béton, du fer. Il n'y a plus de poissons, mon fils, il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons, mon fils, il n'y a plus de poissons. Trois ans plus tard, trois ans plus tard, mais d'où vient ce ronflement si désagréable? Dans la forêt à présent, flacon coupe les arbres. Cela modifie le point de vue, la maison se sent toute nue. Il n'y a plus d'arbres, mon fils, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres, mon fils, il n'y a plus d'arbres. Quatre ans plus tard, quatre ans plus tard, on a coupé dans le champ où pissait Mirza. Une route va frôlant nos derniers lilas. Il y a beaucoup de bruit, surtout le dimanche et samedi. J'en perds le sommeil, mon fils, j'en perds le sommeil. J'en perds le sommeil, mon fils, j'en perds le sommeil. Cinq ans plus tard, cinq ans plus tard, mais pourquoi tous ces messieurs, coupeurs de rubans, ces ministres obséquieux, viennent si souvent? De monstrueux gras du ciel nous ont caché le soleil. Il n'y a plus d'air, mon fils, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air, mon fils, il n'y a plus d'air. Six ans plus tard, six ans plus tard, voici emprisonné au 15e étage d'un îlot préfabriqué, une triste cage. Quelqu'un frappe au rez-de-chaussée et moi je réponds entrez. Je suis devenu fou, mon fils, je suis devenu fou. Je suis devenu fou, mon fils, je suis devenu fou. 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 100 ans plus tard, 100 ans plus tard, 100 ans plus tard, 100 ans plus tard. J'habitais une maison aussi imprenable, une rivière des poissons, une forêt d'érables, ondulait en contrebas du champ où pissait Mirza. Mais il n'y a plus de chien, mon fils, il n'y a plus de chien. Il n'y a plus d'homme non plus,
Radio Libertaire, la boisson du Nîmes de la Fédération anarchiste. Vous êtes toujours à l'écoute de la société dans tous ses états. On vient d'entendre Jean-Yves Lullet, J'habitais une maison. Nous sommes avec Édouard Morena pour son livre Fin du monde et petit four, les ultra-riches face à la crise climatique. Dans une première partie de l'émission, nous avons mis un petit peu en place le décor et on a discuté un petit peu des tenants et aboutissants des mouvements initiés dans les sphères du pouvoir économique par rapport à cette crise climatique. Alors, j'ai appris quelque chose d'assez intéressant. Je peux acheter une forêt en Écosse ou en Amazonie, quelques centaines ou quelques milliers d'hectares, qui vont à la fois être un bon placement et qui vont me permettre de compenser mon carbone. Plus sérieusement, c'est quoi les mécanismes qui sont mis en place et deuxième partie de ma question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une privatisation d'espaces naturels au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, des privatisations d'espaces naturels. Par exemple, j'ai appris là que Bill Gates était le plus grand agriculteur des États-Unis.
Propriétaire de terres agricoles, oui, ouais. Absolument. Non, c'est... Alors, je pense que c'est... je pense que quand on s'intéresse aux ultra-riches et un peu les stratégies qu'elles déploient face à la crise climatique, en fait, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils... l'idée, c'est de gérer le risque, en fait. Et du coup, ils ne vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc, ils vont peut-être investir une partie de leur fortune dans le développement de nouvelles technologies bas carbone. Ils vont investir une autre partie de leur fortune dans la construction d'un bunker ultra sécurisé au fin fond de la Patagonie pour s'échapper ou s'évader en cas de cataclysme. Mais en fait, ce qu'ils font aussi, et ce que l'on voit aussi, c'est de plus en plus, c'est qu'ils achètent aussi, ils investissent dans des terres, et dans l'achat notamment de terres. Ils investissent dans ces terres, notamment dans les forêts, donc par exemple... Tu as mentionné les forêts, l'Amazonie, mais aussi il y a les terres en Écosse, les espaces naturels en Écosse. Ils le font parce que ces terres, en fait, elles concentrent aussi du carbone. Et du coup, à partir du moment où eux, ils font le pari, finalement, que le carbone qui est stocké dans ces terres ou dans ces forêts qu'ils achètent, il va prendre de la valeur, en fait, avec le temps. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, on va devoir essayer de mettre en œuvre en fait des politiques de lutte contre le changement climatique, et notamment à partir du moment où une des solutions qu'on va apporter, c'est cette solution des compensations. Et c'est cette idée au fond que plutôt que de réduire soi-même ses émissions, en fait on va payer quelqu'un d'autre pour les réduire, notamment en achetant le carbone en fait qui est stocké dans des forêts, etc. Donc on va payer par exemple un forestier africain pour préserver la forêt tropicale africaine, du Congo ou du Gabon. À partir du moment où ces mécanismes de compensation, il va gagner en importance, du coup le carbone qui va être stocké justement dans ces forêts, etc., il va aussi prendre de la valeur. Oui. Donc quelque part, c'est un investissement à long terme qui est potentiellement ultra rentable. D'où cet intérêt, notamment, pour l'achat de terres. Et c'est d'ailleurs historiquement plutôt des terres, et notamment les forêts dans les zones tropicales, parce que ce sont des puits de carbone très importants. Mais ce que l'on voit, et ce que je raconte un peu dans le bouquin, c'est comment finalement, on voit aussi ce phénomène se produire dans des pays, ou dans des pays comme l'Écosse, ou des nations comme l'Écosse, où la terre en Écosse aussi commence aussi à prendre de la valeur, non pas par rapport à sa valeur comme terre agricole ou comme endroit pour cultiver ou pour faire paître des moutons, mais par rapport au carbone en fait qui est stocké.
Alors, on en discutait avant notre entretien. En Écosse, par exemple, ce sont des terres qui étaient... on ne va pas parler de communes, parce que ça, mais en fait, qui étaient des terres de libre accès. Ouais. Et qui, peu à peu, deviennent interdites de passage, ou on les enclôt, comme pendant le mouvement des enclosures à la fin du Moyen-Âge anglais. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a là aussi, de la part de cette minorité ultra-riche, d'accaparement de biens qui étaient plus ou moins, en tout cas, à l'usage de tous.
Oui, c'est ça. C'était des terres qui, effectivement, sur le papier, étaient peut-être détenues par un propriétaire terrien, mais effectivement, c'était des terres qui étaient accessibles à tous. Et du coup, ce que l'on voit, en fait, on voit comment finalement le prétexte de la prétexte climatique, il est aussi utilisé pour dire oui, non, mais pour interdire aussi l'accès de ces terres. Encore une fois, au prétexte que finalement, il faut protéger ces terres. Il faut justement que ces terres soient, qu'il n'y ait aucune présence humaine sur ces terres, justement parce que il faut préserver les terres et donc préserver le carbone qui est stocké. Mais je pense que ce phénomène, il est encore plus visible et aussi plus violent en fait dans les pays du Sud, notamment dans les pays forestiers en fait, où pour le coup, ces terres et notamment ces forêts tropicales. C'est pas juste des espaces sur lesquels on va déambuler, ce sont aussi des espaces essentiels en fait à la survie en fait de tout un tas de communautés. C'est des espaces qui depuis des centaines d'années en fait sont des espaces qui servent aussi qui ont été traditionnellement en fait des lieux où habitaient ou vivaient en fait tout un tas de populations indigènes. Et là, en fait, encore une fois, au prétexte qu'il faut protéger ces terres et protéger notamment le carbone qui est stocké, en fait, on est en train aussi d'exclure en fait ces populations de leurs terres. Et donc quelque part, on est en train de priver aussi des populations de terres qui traditionnellement auxquelles traditionnellement ils avaient accès.
L'origine de cela, tu le mentionnes et tu l'expliques bien dans ton livre, c'est lors d'une réunion internationale à Bali, c'est ça, en 2007.
Oui, alors, c'est sur les focalisations sur les forêts notamment. Ouais. C'est vraiment en 2007, donc la conférence climat de Bali. Donc tous les ans, il y a des conférences onusiennes sur le climat, donc en fin d'année. Donc, cette année d'ailleurs, elle va avoir lieu aux Émirats Arabes Unis. voilà, l'année dernière, c'était en Égypte. Et du coup, en 2007, effectivement, il y avait une conférence à Bali, et c'est lors de cette conférence qu'il y a eu aussi toute une discussion sur la question des forêts. C'était pas juste cette question, c'était en fait la question de, enfin, l'enjeu qui était posé, c'était de savoir comment on peut faire pour valoriser en fait le carbone qui est stocké dans les forêts tropicales, et en valorisant le carbone qui est stocké dans les forêts tropicales, aussi préserver les forêts en fait, faire en sorte que les forêts ne soient pas coupées. Parce que l'un des gros enjeux aussi, dans de nombreux, et on le voit notamment au Brésil, c'est la déforestation. En fait, donc l'idée, c'est de dire bon, on va à la fois lutter contre la déforestation, on va lutter contre la déforestation et lutter contre le changement climatique en valorisant le carbone qui est stocké dans les forêts tropicales. Mais cette question de valorisation du carbone, etc., finalement, ça existe depuis même avant en fait, si on revient 10 ans en arrière. En 1997, lors de la conférence de Kyoto, donc une autre conférence climat, qui a donné naissance au protocole de Kyoto, qui était un peu le premier accord international sur le climat, déjà, en fait, l'une des grandes victoires, notamment des États-Unis, dans le cadre du protocole de Kyoto, et d'ailleurs, on revient à Al Gore, en fait, il a joué un rôle très, très important, en fait, hein, dans ça, c'était de mettre en place les premiers mécanismes de marché dans le cadre de ce protocole de Kyoto, qui permettaient justement aux pays industrialisés de déjà compenser leurs émissions. Donc, c'est-à-dire de les États-Unis, par exemple, un industriel américain, plutôt que de réduire ses propres émissions, donc de faire en sorte que son processus industriel émette moins de gaz à effet de serre, en fait, il allait payer des acteurs dans les pays du Sud pour mettre en œuvre des projets en fait qui étaient censés réduire les émissions. Donc toujours cette logique, il y a vraiment une dimension très néocoloniale aussi dans ça, qui est de dire c'est toujours de faire payer ou de payer des autres en fait pour faire le travail à sa place et pour du coup aussi continuer en fait à émettre comme avant en fait. Donc voilà.
Concrètement, j'émets une tonne de carbone dans l'atmosphère. Mm-hmm. Et j'achète une surface de terre ou de forêt qui compense.
Qui correspond effectivement à cette tonne de carbone qu'on a émis. Alors ça peut prendre différentes formes. Mmh. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Bali en fait. C'était que la logique était encore plus tordue, si je puis dire. L'idée c'était pas de dire on va planter des arbres en fait. On va planter des nouveaux puits de carbone. C'est plutôt de dire on ne va pas couper les arbres. Mmh. Donc du coup ça sous-entendait d'être en capacité d'évaluer en fait le taux de déforestation. Donc, pour justement dire, si je payais pas finalement ce pays, enfin la Guyana ou je sais pas qui,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
ouais. Ben en fait, ils couperaient des arbres et donc ils relâcheraient tout ce carbone dans l'atmosphère. Ouais. Donc en fait, la logique, elle va encore plus loin, c'est-à-dire maintenant, c'est aussi de dire, ben en fait, on paye quelqu'un pour ne pas émettre. Et ce qui est censé, du coup, effectivement, compenser ses propres émissions. Mais au final, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, le résultat, c'est quoi ? On est en capacité aujourd'hui aussi d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Et on se rend compte que finalement, ça n'a jamais fonctionné, en fait. Ouais. D'abord, la tonne de carbone, le prix du carbone, il n'a jamais augmenté. Donc, ça coûte pas cher. Donc, ça veut dire que pour un industriel du Nord, finalement, ça coûte toujours moins cher d'acheter un crédit carbone plutôt que de réduire ses propres émissions. Parce que l'idée à la base, c'est de dire, bon, bah, le prix du carbone va augmenter, donc ça sera moins coûteux de réduire ses propres émissions que d'acheter des crédits. Mais en fait, non, le prix du crédit, il a toujours été très faible. Donc, ça veut dire que ça coûte toujours moins cher de payer quelqu'un, d'acheter un crédit carbone plutôt que de réduire ses propres émissions. Et donc, ça veut dire quoi ? Bah, qu'on continue à émettre. Et en plus, le gros problème aussi, c'est très difficile de calculer exactement en fait, la quantité de carbone qui est stockée dans une forêt tropicale. Et aussi, c'est encore plus difficile de calculer la quantité de carbone qui n'a pas été émise, en fait, ou qui aurait pu être émise si on n'avait pas mis en place ces systèmes de compensation.
C'est de la pure spéculation.
Donc, c'est que de la spéculation. Oui. Donc, ça fait vivre, en fait, tout un tas d'acteurs que je décris un peu dans ce moment. Il y a tout un secteur qui s'est créé autour de ça, d'ailleurs.
Oui, tu parles des carbon cowboys.
Oui, c'est ça. Les carbon cowboys, donc, c'est des gens qui, notamment autour de la conférence de Bali, justement, allaient dans les pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans d'autres pays tropicaux pour essayer de convaincre les populations locales, finalement, de faire en sorte que leurs terres, en fait, qui étaient, dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est des terres communes, en fait. Donc, c'est des terres qui appartiennent aux communautés. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, vendez vos terres ou rendez-les disponibles, on va dire, confiez-moi vos terres et je vais vous amener des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Parce qu'on va faire beaucoup d'argent à travers les crédits carbone que l'on va vendre, en fait, en valorisant vos terres. Donc déjà, voilà, donc ça crée tout un tas de vocations, dont ceux des Carbon Cowboys, mais aussi tous ceux qui certifient aussi les crédits, c'est-à-dire les certificateurs. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux acteurs, de nouveaux métiers qui ont été créés autour de ça, qui eux, pour le coup, ont intérêt en fait à préserver ce système qui ne fonctionne pas, plutôt que justement de se dire bon bah en fait non, objectivement ça marche pas. Passons à autre chose.
Il y a eu récemment en France des personnes qui ont été poursuivies pour escroquerie sur les marchés du carbone, avec des détournements, mais ça se chiffre en plusieurs millions, voire en dizaines de millions d'euros. Mm-hmm. Donc on voit bien que là, on a juste créé une nouvelle niche marchande sans aucune efficacité sur les émissions de carbone. Oui. Et
d'autant plus que ce qui est intéressant avec le carbone, c'est en tant que marchandises, c'est qu'en fait c'est totalement, enfin c'est invisible en fait quelque part, enfin c'est pas une chose qu'on peut facilement c'est pas un objet sonnant et trébuchant, enfin c'est pas une chose concrète, enfin c'est un gaz, donc en fait c'est ce qui permet aussi justement tous ces détournements, c'est ce qui permet aussi toutes ces escroqueries finalement c'est un chiffre sur un bout de papier en fait, hein, ce dont on parle. Donc il y a rien de concret en fait,
et c'est ça qui est absolument effrayant de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des échanges et des spéculations sur des objets quasiment virtuels.
Ouais.
Hein, et c'est vraiment le mécanisme du capitalisme, c'est une espèce de course comme ça sans cesse sur la valorisation de titres qui n'ont en eux-mêmes aucune valeur.
Oui, absolument. Hein? Ouais.
Et donc, on...
Et qui sont associés à une marchandise qui, en soi aussi, est une marchandise, enfin, pas fictive, mais encore une fois, qui est, enfin, si on me dit, j'achète, je sais pas, l'équivalent d'une tonne de crédit carbone, on va pas être en capacité de me donner une tonne de carbone.
Bien sûr.
Donc, en fait, c'est aussi ça, la difficulté, c'est que c'est un bout de papier. Du coup, ça sous-entend tout un tas de calculs où on doit estimer, encore une fois, la quantité de carbone qui est séquestrée, la quantité de carbone qui n'est pas émise, etc., etc. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut être aussi très créatif, en fait. On n'est jamais en capacité de l'évaluer de manière très précise.
On l'a évoqué, là, il y a régulièrement donc, des grandes conférences internationales organisées par l'ONU, qu'on appelle les COP. Alors, je ne retiens jamais ce que ça veut dire.
Alors, en anglais, c'est Conference of the Parties, c'est la conférence des partis. D'accord. Les partis, en fait, ce sont les signataires de la Convention climat des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, ce sont les États.
Okay. Voilà. Et donc, tous les ans, on a ces grands messes qui se tiennent. Alors, à Paris, c'était en 2015, la COP21. Tu as cité Bali en 2007. Il y a eu Kyoto, c'était une des premières grandes organisations. Et puis, il y a eu Copenhague en 2009. On va s'arrêter sur celle de Copenhague, si tu veux bien, et nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça... C'est peut-être un tournant dans la façon dont les différentes organisations se sont mises en question et qui a développé par la suite toute une économie.
En fait, effectivement, Copenhague, c'est important pour moi parce qu'en fait, c'est un peu... En gros, l'histoire que je raconte, en quelque sorte, elle débarque au début des années 2000, donc autour de 2004-2005. Et en fait, déjà à ce moment-là, en fait, tout un tas d'acteurs avaient en ligne de mire la conférence de Copenhague. Parce qu'en gros, ils savaient en fait, qu'en 2009, il fallait avoir un nouvel accord international sur le climat pour remplacer le protocole de Kyoto. Donc il y avait vraiment cette idée que voilà, 2009, on va négocier un nouvel accord. Donc à partir du moment où en 2009 on sait qu'on va avoir un nouvel accord, bah c'est ce qui va aussi mettre en branle tout un tas d'acteurs en amont de la COP 15 de Copenhague qui vont chercher finalement à orienter finalement le débat et aussi les négociations pour que finalement l'accord qui sera discuté et négocié et accordé à Copenhague ce soit finalement un accord qui soit en phase en quelque sorte avec leurs intérêts et leur vision de la transition bas carbone. Donc pour moi, Copenhague, c'est important aussi comme marqueur en fait temporel qui permet aussi de comprendre en fait pourquoi tous ces acteurs se mobilisent à partir de 2005-2006 parce qu'ils savent en fait qu'il y a 2009 qui est à l'horizon et donc ils savent aussi qu'ils vont devoir faire tout un travail d'ici à 2009 pour s'assurer que l'accord de Copenhague soit un accord qui, encore une fois, soit en adéquation avec leurs intérêts.
C'est un travail de lobbying, finalement.
Absolument. C'est un travail à la fois d'orientation du débat, de faire en sorte aussi que... Alors, c'est à la fois un travail sur les négociations elles-mêmes, mais aussi un travail sur les différents gouvernements, et notamment les gouvernements qui sont considérés comme essentiels, en fait, pour avoir cet accord. Pour essayer aussi, et c'est un travail aussi pour essayer d'orienter, on va dire, le discours en fait dominant autour de la question climatique. Et donc, le discours dominant, c'est le discours dominant notamment sur, en gros, quelles sont les solutions qu'il faut essayer de mettre en œuvre, quel est le rôle en fait des acteurs privés, des investisseurs, etc. etc. Donc, il y a tout ce travail qui est fait en amont des COP, notamment de la COP 15, mais on va voir la même chose avec la COP 21. Et donc, c'est ce qui va, en fait, aussi amener tous ces acteurs à s'intéresser aussi à l'enjeu climatique, parce qu'ils veulent à tout prix, finalement, que cette COP 15, elle délivre, en fait, un accord qui soit encore plus intéressant pour eux que ne l'était déjà, en fait, le protocole de Kyoto. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Et du coup, en fait, ce que l'on va aussi voir, c'est tout un tas d'autres acteurs qui vont aussi voir l'opportunité aussi de s'engager dans le débat, et donc c'est pour ça que je parle notamment en parlant de Copenhague, je parle pas mal de McKinsey, donc de sociétés, donc de boîtes comme McKinsey, de conseils en management, etc. Eux, ce qu'ils vont aussi voir, c'est que il y a un besoin d'expertise aussi autour des questions climatiques, tout simplement parce que plein d'États, mais aussi plein d'entreprises n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils doivent faire ou de comment aborder finalement cette négociation. Et du coup, en fait, McKinsey, ce qu'ils voient, c'est l'opportunité de leur amener en quelque sorte des solutions sur un plateau, des plans de transition bas carbone pour les pays du Sud, etc. etc. Donc en fait...
En préservant les intérêts économiques et financiers, bien entendu.
Oui, absolument, bien sûr, parce qu'effectivement, ce sont leurs clients, en fait. Et du coup, McKinsey, de toute façon, ce qu'ils cherchent surtout, d'abord et avant tout, c'est aussi faire plaisir à leurs clients. La COP 15, elle est importante de ce point de vue-là aussi, dans cette sorte de
dans la manière dont elle va finalement mettre en branle en fait tout un tas d'acteurs et notamment les acteurs que moi j'analyse dans le bouquin en fait. Et ensuite par rapport à la COP 15 elle-même, bon bah elle va finir en fait, la COP 15 va pas aboutir, donc ça sera toujours, ça sera considéré comme un échec. Mais malgré tout,
il y a pas eu d'accord à l'issue de.
Il y a pas eu d'accord et il y a notamment justement une dimension qui n'a pas fonctionné, c'est dans la sorte de manière de vendre la COP, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient trouver plus ou moins un consensus entre les élites sur ce qu'il fallait faire, mais par contre, ils n'avaient pas réussi à vraiment la vendre comme étant la seule et l'unique solution et une bonne chose pour l'ensemble de la planète.
Mais la vendre à qui ? Au grand public ?
Bah, notamment, effectivement, dans une sorte de capacité. Il y a eu un problème d'interprétation aussi de la COP15, c'est-à-dire que les médias, mais aussi les mouvements, en fait, mouvements climat, ont été très critiques, en tout cas une partie, notamment les mouvements pour la justice climatique, ils ont été très critiques à l'égard de la COP15. Et leurs critiques ont été entendues, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui a aussi contribué à promouvoir cette idée que la COP15 était un échec. Alors qu'en fait, dans la réalité, si on regarde un peu plus près ce qui a été acquis à la COP15, c'est tout un tas de points qui ont été gagnés lors de la COP15 qui vont être ensuite recyclés lors de la COP21 à Paris et dans l'accord de Paris. L'accord sur cette idée d'un objectif à long terme de 2 degrés, c'est un point qui va être repris dans l'accord de Paris, mais aussi cette idée en fait que d'engagement volontaire, donc cette idée qui est aussi au cœur de l'accord de Paris, cette idée qu'en fait on va pas imposer gouvernements des réductions.
Oui, c'était pas contraignant, je m'en souviens de
exactement.
Ce terme.
Exactement, cette vraiment idée qu'un accord non contraignant, ce sera un point déjà présent lors de Copenhague, parce qu'en fait on va commencer à mettre en avant cette idée qu'en fait plutôt que de contraindre les gouvernements notamment sur la base de leur responsabilité historique, donc sur leur histoire d'émissions, en fait, on va laisser au gouvernement une sorte de libre arbitre de décider de combien ils veulent réduire leurs émissions et sur quelle échéance.
Ouais.
Et du coup, de ce point de vue-là, la COP15, elle est vraiment clé, en fait. Il n'y aurait pas eu d'accord à Paris sans la COP15, ça c'est certain.
Il y a aussi ça dépasse peut-être un petit peu le cadre de ton ouvrage, mais aussi les rapports entre les pays riches et les pays pauvres, qui revient à chaque fois, à chaque réunion. Il y a effectivement cette dimension d'une inégalité entre le Nord et le Sud, qui fait qu'on ne peut pas demander les mêmes, si on s'en tient au cadre des négociations, on ne peut pas demander les mêmes efforts à des pays qui ont des disparités économiques aussi importantes que ceux du Sud et ceux du Nord, ceux d'Afrique. Et ceux d'Europe.
Justement, ce point-là, il a été aussi remis en question lors de Copenhague, parce que justement, c'était ce qui est sorti de Copenhague aussi, c'est l'idée que tout le monde doit faire des efforts. Et ça, c'était un point que les États-Unis ne voulaient, ils n'étaient pas prêts à céder sur ça. Cette idée que nous, on ne fera pas d'efforts tant que les pays du Sud n'en font pas. Alors, ils visaient surtout la Chine, parce que la Chine est effectivement, objectivement, aujourd'hui un gros émetteur, mais ça incluait aussi l'ensemble des pays du Sud. Alors que, historiquement, avec Kyoto, les pays du Sud n'avaient pas d'obligation, n'avaient pas de contraintes, n'avaient pas d'obligation de réduction d'émissions. Tout simplement parce qu'on estimait que, compte tenu de leur responsabilité historique minimale dans la crise, ils n'avaient pas à faire d'efforts. C'était aux pays historiquement les plus émetteurs. C'était à eux, finalement, de faire l'effort. Avec Copenhague, tout ça va changer, en fait.
Et à la suite donc, de Copenhague, on peut qualifier d'échec d'un point de vue médiatique ou grand public, même si, comme tu viens de souligner, il y a eu quand même des points qui ont été acquis. Là, je parle du point de vue des gouvernants, je ne parle pas du point de vue de notre point de vue à nous. Attention, il ne faut pas nous faire dire. Mais à partir de là, donc, des sociétés de conseil vont éclore. Alors, tu en cites vraiment, il y en a. J'étais halluciné par le nombre.
On a
vraiment un vivier. Une espèce une sorte de niche écologique dans laquelle dans laquelle se sont précipités des, puis il y a des gens malins quand même qui savent qui sont des opportunistes, et bien sûr tu as les plus gros, donc tu cites McKinsey. Et tu parles d'un rapport qui est publié dans une revue qui s'appelle The Economics of Climate Change, qui est plus connu sous le nom de Stern Review, qui est le nom de l'économiste Nicolas Stern qui l'a signé, et qui va être un petit peu le support un petit peu de toutes ces nouvelles politiques qui vont être engagées par ces sociétés de conseil qui vont là démultiplier encore leur force de frappe en termes de lobbying.
Oui, parce que alors ça renvoie un peu encore une fois au contexte de 2005-2006, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y a un intérêt de plus en plus marqué sur en fait la question de pas seulement la science dure en fait du climat, mais aussi la science économique du climat. En vrai, alors, je sais pas si c'est pas le terme est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est un peu cette idée de en gros d'un point de vue économique, la lutte contre le changement climatique, enfin, ça veut dire quoi, en fait? Et le rapport Stern, il est important parce que c'est vraiment un sorte de rapport, un des sortes de premiers rapports qui va un peu faire date et qui va, en quelque sorte, essayer de chiffrer, en fait, le coût, notamment en termes de points de PIB, à la fois de la lutte contre, si on met en place des politiques de lutte contre le changement climatique, mais aussi si on ne fait rien, en fait. Et ce qu'il va montrer, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher de ne rien faire que d'agir sur le climat. Donc, en fait, ça, c'est un rapport qui va vraiment faire date, qui va énormément circuler, qui va être aussi critiqué, mais en fait, les critiques, on va un peu les balayer parce que voilà, mais en tout cas, ça va faire date. Et c'est vrai que c'est un peu sur le dos de ça que, du coup, tout un tas d'acteurs, dont McKinsey, vont aussi, s'intéresser aussi à cette question de la dimension un peu économique de la question climatique, et du coup commencer à construire tout un tas de modèles, des modèles pour des secteurs économiques, donc pour des industries, des modèles aussi pour des pays, pour essayer de voir, en gros, si on se fixe cet objectif à l'époque, on parlait peut-être même pas encore de 2 degrés, mais en gros, si on disait, voilà, pour limiter le réchauffement de 2 degrés, qu'est-ce que ça voudra dire en fait pour ces différents secteurs économiques, et où est-ce qu'on peut, où est-ce que ça, enfin, quels sont les secteurs où ça coûtera finalement le moins cher d'investir pour lutter aussi, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, c'est là où aussi ils vont s'intéresser aux forêts, parce qu'en fait les forêts, ils vont dire les forêts, en gros, les forêts, ça coûte rien, en fait, d'un point de vue investissement, finalement, c'est minimal, mais par contre, ce sont des énormes puits de carbone. Alors que si on regarde, la capture de carbone, donc c'est une nouvelle technologie où on va chercher de capturer le carbone qui est émis, par exemple, par une centrale thermique, ben là, pour le coup, le coût de la tonne de carbone, il va être beaucoup plus cher. Du coup, c'est peut-être moins rentable que d'investir dans les forêts tropicales. Donc, en fait, ils vont faire tout un tas de modélisations qui vont, en fait, participer aussi à la construction d'une sorte de langage un peu partagé, en fait, sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas. Et en parallèle, ça va aussi contribuer à une forme de dépolitisation, entre guillemets, de l'enjeu. Parce qu'en fait, on va juste parler de technologie, on va juste parler de coûts, en fait, de technologie, on va juste parler de tonnes de carbone. Et finalement, on va laisser de côté les dimensions éminemment politique de ces technologies aussi. Le fait que finalement, quand on met en place un système de compensation avec des forêts tropicales, en fait, on est aussi en train d'exclure des populations locales de ces forêts. Du coup, ça a des conséquences politiques.
Tu cites cette courbe magnifique. La courbe des coûts marginaux, oui. Où sur un seul diagramme, on voit fois l'effort, le coût, le gain qu'on peut avoir. Oui. Enfin, c'est une invention assez incroyable et qui repose en fait sur quelques idées, mais qui concrètement, on ne sait pas très bien si c'est réaliste.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière, déjà sur les chiffres, et c'est parmi les critiques qui ont été faites en fait. Alors, les critiques qui ont été assez tardives, par le coup, parce que pendant longtemps, on prenait ça comme argent comptant sans vraiment s'interroger sur d'où venaient les chiffres qu'ils mettaient sur ces courbes. Et effectivement, c'est un peu à l'image d'un graphique, en fait. C'est un graphique en 2D, en fait. Il manque toute la profondeur, en fait. Il manque les dimensions sociales et politiques aussi de tout ça. Ça a une forme de simplification radicale, finalement, d'un problème qui est très complexe, en fait. Mais en même temps, c'est vraiment ce que demandaient, en fait, les États, les gouvernements, les entreprises à l'époque. C'était justement d'avoir quelque chose qui soit facile à comprendre, facile à communiquer, qui tienne justement sur une page ou dans un PowerPoint. Voilà. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi que ils aient réussi finalement à imposer cette courbe et à faire que finalement elle soit adoptée par toute une série d'acteurs.
Tu cites, alors, c'est pas possible, hein, mais tous les personnages, en fait, parce qu'il y a vraiment, tu donnes les noms,
oui,
des personnes qui sont impliquées, la façon dont... Alors ça, c'est un travail quand même assez extraordinaire, parce que tu cites des discussions qu'ils ont pu avoir, les personnes qui sont impliquées, les bureaux, comment se font... C'est du travail d'influence,
oui,
de réseautage...
Oui.
De gens qui ont des intérêts communs, qui peuvent être en compétition, en concurrence, et qui savent qu'ils vont se partager un marché gigantesque, finalement, parce que tout ça, ça a un coût, finalement, ça a un coût qui est indirectement supporté par nous tous, à travers nos impôts, et puis, comme tu le disais tout à l'heure, par la captation des crédits qui auraient pu être distribués pour...
masse communique,
qui auraient pu être distribués en faveur des services publics et qui sont détournés vers des promesses de réduction de gaz à effet de serre.
Mais c'est vrai que le point que tu soulèves sur la question des individus, je pense que c'est important, et c'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose, en fait, quand on écrit... est-ce qu'il faut que je nomme les gens, etc. Mais en fait, finalement, oui, je pense que c'est important, parce qu'en fait, c'est une histoire de personne. C'est une histoire aussi de trajectoire personnelle. C'est aussi une histoire d'individus qui naviguent, en fait, entre différents espaces, qui font partie de réseaux, etc. Et du coup, il suffit pas juste de parler, de dire c'est McKinsey. Non, en fait, ce sont 10 personnes à l'intérieur de McKinsey qui occupent des rôles bien spécifiques et qui avant occupaient des rôles dans d'autres espaces qui étaient spécifiques et qui ensuite occuperont des rôles dans d'autres espaces. Il y a aussi une forme de circulation de personnes qui fait que, en fait, on est obligé, en fait, de se focaliser sur les personnes.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
La la.
Mais...
La la. La, 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 la,
non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Écoute, Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais du quatrième étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la.
La 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 la.
Ouais. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ?
Ouais, ouais.
Toujours Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états, aujourd'hui avec Édouard Morena pour son livre « Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique ». On vient d'écouter Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, « C'est normal ». On a vu donc l'importance des individus hein, dans les organisations qui sont en train de mettre en place ce débat sur la technologie comme devant être la solution pour préserver le capitalisme vert. On va revenir comme ça sur les personnes et en particulier dans tout l'aspect des communicants. C'est très important parce que il y a vraiment, on le voit bien, un effort très très important de la part de toutes ces boîtes de conseil, de tout ce qui gravite autour des COP21, tout ce qui gravite dans les couloirs des gouvernements autour des questions climatiques, des organisations et aussi des personnes qui sont là pour vendre, survendre même un discours formaté. Et un discours à l'usage des gens qui ont intérêt, bien sûr, mais aussi pour emmener le grand public dans le sens souhaité. Tu cites beaucoup de personnes, mais il y a une personne en particulier sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, parce que je pense qu'elle est représentative hein, de ce système de communicants, c'est Cristiana Figueres. Ouais. Alors elle est costaricaine, elle est proche du pouvoir.
Fille de président, alors je pense que c'était le président, un des présidents costaricains, son frère a été aussi élu à la tête du pays. Donc elle fait partie vraiment des élites, on va dire, politiques, mais aussi économiques, parce que son père aussi avait... Enfin, ils ont une sorte d'entreprise familiale. Ils sont un grand propriétaire aussi terrien au Costa Rica. Mais en même temps, en fait, elle a été, à partir des années... début des années 90, elle a commencé aussi à s'intéresser à l'enjeu climatique. Elle faisait partie aussi des négociateurs pour le Costa Rica dans le cadre de la conférence de Kyoto qui a donné lieu au protocole de Kyoto, etc. Et puis ensuite, donc, de fil en aiguille, finalement, elle a été désignée à la tête de la Convention climat des Nations Unies pour le changement climatique, donc qui est en fait l'organisation des Nations Unies qui organise les COP. Donc en fait, elle avait une position assez importante et elle a été à la tête donc de la Convention climat. De, en gros, 2010, l'après Copenhague, jusqu'à l'accord de Paris, donc en 2015. Donc voilà. Et suite à ça, effectivement, elle est devenue un peu une sorte de... c'est un peu mis à son compte, on pourrait dire. Elle est devenue un peu une sorte de femme sandwich de l'action climatique. Et voilà, et elle fait partie vraiment de ces acteurs qui promeuvent finalement ce discours du capitalisme vert, qui contribuent aussi à une forme de normalisation aussi de ce discours et des solutions qui sont associées.
Tu cites, alors c'est à la fois anecdotique, mais en même temps, ça dit bien comment ça fonctionne dans ce milieu. Une conférence TED Countdown,
oui,
dans laquelle elle est invitée, elle est, oui, la principale...
Elle fait partie presque des organisateurs.
Voilà. Ouais. Et une certaine Laura, alors je me souviens, attends, quand je retrouve son...
Je crois que c'était McDonald, je pense.
Oui, et donc... au cours de cette conférence, tout est réglé au millimètre. Hein. Tous les discours sont, oui, sont mis en place, écrits, etc. Il, oui, y a pas de place. Voilà, Lorraine McDonald. Ouais, et donc elle fait partie plutôt de. Elle est invitée en tant que porte-voix des contestataires.
Elle est activiste pour le coup. Voilà. Elle était très engagée en Écosse, notamment contre tout un tas de projets. Donc Shell, notamment, qui voulait. Enfin, on avait des projets de forage pétrolier dans la mer du Nord. Oui. Donc c'est vraiment une activiste du coup qui a joué un rôle important, mais elle était invitée donc à cet événement auquel aussi participait le PDG de Shell.
Et elle était à la même table.
Ils étaient sur l'estrade ensemble, ah, et voilà. Alors, c'est typiquement un peu les stratégies qui sont déployées par ces acteurs, en fait. C'est de dire, oui, on vous donne une plateforme, vous aurez l'occasion de parler directement, on va dire, au PDG de Shell, vous pouvez vous faire entendre. Mais en même temps, en fait, en faisant ça, c'est un peu la même chose avec Greta Thunberg qui va à Davos. Enfin, finalement, ce qui compte, c'est qu'elle vienne. Parce qu'en fait, en venant, en partageant l'estrade, en participant à ces événements, finalement, elle contribue aussi à légitimer à la fois Shell et quelque part l'événement lui-même. Donc voilà, en tout cas, elle a accepté d'y aller et elle raconte du coup très bien, donc Lorraine McDonald raconte aussi très bien comment finalement, comme tu l'as dit, tout était préparé au millimètre, on lui avait plus ou moins demandé ce qu'elle allait dire, etc., etc. Et en fait, elle a fini par en fait faire du hors-piste et au compte, plutôt que de faire ce qu'on lui a demandé de faire ou de dire ce qu'on lui a demandé de dire, effectivement, elle a eu des mots très très durs et critiques à l'égard en fait du PDG de Shell, et en plus elle a décidé de quitter l'estrade en fait en signe de protestation.
Oui, c'était un scandale.
C'était un scandale. Alors, je pense que c'était très courageux de sa part, et mais en même temps effectivement c'était totalement inattendu. Mais ça renvoie encore une fois un peu au rôle de ces événements en fait. Il y en a plein, hein, autour, oui, du climat. C'est une dimension très performative. C'est vraiment cette idée de se servir de ces événements, ces sortes de pseudo débats, etc., pour encore une fois diffuser encore une fois et normaliser ce discours du capitalisme vert. Mais voilà, et c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, cette dimension performative, presque théâtrale aussi, de ces événements. Rien n'est laissé au hasard. Et donc quand quelqu'un finalement sort du script ou commence à faire une improvise, bah du coup ça dérègle tout en fait. C'est ça qui pour moi était intéressant dans cette scène, c'est qu'elle justement elle n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et du coup, un court instant, finalement, on a vu que finalement tout le dispositif a commencé, ouais, il y a une sorte de moment de flottement qui était assez assez intéressante à observer en fait.
Et Christiana Figueres s'en sort. Alors là, c'est une grande professionnelle.
C'était du grand spectacle encore une fois, parce que finalement, elle tout d'un coup. La stratégie qui est déployée par ces acteurs-là aussi, c'est toujours dans cette logique de dépolitisation, en fait, en disant oui, non, mais là, en gros, tu dis ça parce que sous le coup de l'émotion.
Et de la douleur.
Et de la douleur, et de. Voilà. Et quelque part, en faisant ça et en allant, en fait, en insistant vraiment sur cette dimension des émotions, bah finalement, ça crée aussi cette idée de fait que moi, en tant que Christiana Figueres, lui, en tant que PDG de Shell, et toi, en tant qu'activiste climat, on est tous humains et on a tous des émotions, et du coup, on partage tous finalement les mêmes émotions. Du coup, retrouvons-nous autour de ces émotions pour trouver une solution commune. Voilà.
Ces événements qui arrivent de manière régulière, qui sont programmés, qui sont mis en scène, sont aussi le tempo, servent de tempo aussi à toutes les organisations et les mouvements qui s'opposent à ces politiques-là et qui à chaque fois donc se retrouvent et se déplacent pour manifester, pour montrer qu'ils sont là. Et donc il y a une espèce de jeu qui se fait. Tu le montres bien. Il y a un rapport.
Parce que c'est vrai que le mouvement climat, notamment au niveau international, en fait. Pour qu'il existe, en fait, pour qu'il ait une existence, et notamment médiatique, mais aussi concrète, en fait, il est obligé de s'accrocher à ces événements. Il est obligé de s'accrocher aux COP. Donc, en fait, il est aussi dépendant de cet agenda international qui lui est en quelque sorte imposé. Parce que c'est finalement à travers ces événements internationaux qui attirent aussi une sorte de... qui attire les médias, qui génère une sorte d'intérêt, que finalement il peut exister. Donc quelque part, il est un peu piège aussi de ce calendrier en fait international auquel il est obligé en quelque sorte de s'accrocher pour pouvoir exister en tant que mouvement et se faire entendre.
Alors j'ai appris quelque chose là, en lisant le livre. J'ai appris que Jeff Bezos était très généreux parce qu'il donnait de l'argent aussi à Extinction Rebellion.
Oui. Jeff Bezos non, mais il y a effectivement des fondations qui donnent de l'argent à Extinction Rebellion. Oui. Il y a une autre fondation anglaise, basée au Royaume-Uni, qui effectivement finance Extinction Rebellion. Après, Jeff Bezos, par le biais de sa fondation, il a financé tout un tas d'organisations, notamment aux États-Unis, qui sont des organisations, on va dire, pour la justice climatique. Quoi.
Donc, 150 millions de dollars à différentes organisations américaines pour la justice climatique.
Ouais. Et donc effectivement, oui, par le biais de sa fondation, il a donné de l'argent à des mouvements, y compris des mouvements qui d'ailleurs, c'est un peu tout, ça a généré beaucoup de débats au sein de ces mouvements, parce que ça, il a aussi donné de l'argent à des mouvements ou des organisations qui l'ont critiqué, en fait, et notamment qui l'ont critiqué, mais aussi qui l'ont critiqué en tant que PDG d'Amazon par rapport aux conditions de travail des ouvriers dans les dépôts Amazon, etc., etc., quoi. Mais du coup, c'est aussi ça, la force de Jeff Bezos, en tout cas de sa fondation, c'est quand il sait très bien, en fait, qu'en donnant de l'argent à ces organisations-là, il va aussi créer, en fait, des divisions au sein du mouvement, en fait, parce que justement, je pense qu'il y a énormément de mouvements qui étaient dans une sorte de situation où ils avaient à la fois besoin de cet argent pour exister, parce que c'était souvent des organisations qui n'avaient pas beaucoup d'argent et donc pour lesquelles cet argent était important, et en même temps, c'était des organisations aussi qui était aussi fondamentalement opposé à ce qu'incarne en fait Jeff Bezos en tant qu'homme d'affaires, etc., etc.
Tu dis, pour ces riches bienfaiteurs, investir dans Extinction Rebellion et Fridays for Future, c'est aussi une organisation du mouvement pour le climat, c'est investir dans des mouvements à leur image, innovants, entreprenants, agiles, prêts à prendre des risques. C'est une façon indirecte de se valoriser, de se légitimer et d'installer un peu plus la figure de l'entrepreneur innovant au cœur du débat climatique et de la société en général. Voilà, il y a vraiment une...
Oui, alors c'est parce que c'est par rapport au modèle, en fait, à ce type de mouvement. C'est ce que je trouve assez intéressant avec ces nouveaux mouvements que l'on voit. Donc, on ne parle pas vraiment de Greenpeace ou de WWF, qui sont des sortes de grosses organisations, presque des sortes de bureaucratie environnementale. Enfin, là, on parle de mouvements qui, finalement, sont des mouvements très horizontaux, peu structurés, qui ont une sorte de manière de fonctionner qui finalement s'apparente en fait paradoxalement, enfin beaucoup finalement à un peu le modèle d'entreprise aussi dont sont porteurs ces ultra riches, c'est-à-dire des structures faussement horizontale où finalement on va responsabiliser les individus les individus sont aussi on va se servir d'un individu et puis ensuite on va le jeter peu de temps après. Voilà, donc en fait c'est, pour moi c'est assez intéressant de voir comment ce mouvement finalement est, aux yeux en tout cas de ces financeurs, il était un peu à leur image. Oui,
j'ai retrouvé dans ton livre là le nom du généreux donateur à Extinction Rebellion. Il s'appelle Christopher Hahn, c'est un milliardaire britannique. Tu lui dis la planète c'est un peu comme le Titanic, tout le monde se dirige vers l'iceberg, mais les riches passagers qui commandent le navire, et en cas de collision, ils auront prioritairement accès aux canaux et gilets de sauvetage. Ouais. L'iceberg climatique, ils ont aussi intérêt à l'éviter, donc c'est ces personnes qui détiennent le pouvoir et qui économique et par ce biais aussi le pouvoir de domination politique. Mais en cas de collision, ils ont intérêt à s'assurer que les classes inférieures du navire ne se retournent pas contre eux. Si Hahn et d'autres ultra-riches choisissent de financer Extinction Rebellion, c'est aussi pour asseoir un peu plus leur contrôle sur le navire. Et l'inquiétude exprimée par Hahn n'est pas celle d'un citoyen lambda, mais bien celle d'un milliardaire. Ouais. Ce qui est en jeu, ce sont ses intérêts économiques, son pouvoir. Finalement, on est sur la même Terre, planétaire, mais on n'a pas les mêmes intérêts.
Non, absolument. Non. Oui, c'est. Alors, effectivement, eux, ils insistent beaucoup cette idée qu'on est sur la même planète et qu'on partage la même Terre. Et du coup, c'est toujours un peu cette image de Jeff Bezos qui va dans l'espace et qui regarde la Terre. Et effectivement, vu de l'espace, on est tous pareils, quoi. On est tous égaux. Mais justement, la réalité, effectivement, c'est que, on n'est ni égaux en termes de responsabilité dans la crise, et on n'est pas non plus égaux dans nos capacités à la confronter, en fait. Et encore une fois, pour moi, c'est essentiel, en fait, d'insister sur ça, parce que, voilà, un Jeff Bezos, ses intérêts, certes, il a peut-être intérêt à réduire les émissions à l'échelle globale, mais il a aussi intérêt à pousser une certaine idée de la transition plutôt qu'une autre qui serait pour le coup une transition qui serait plus centrée sur les questions de justice, qui serait dans l'intérêt du plus grand nombre, en fait.
Et de remise en cause du oui, mode de production, absolument, et de ce système,
oui,
capitaliste.
Oui, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, voilà, en fait, effectivement. Oui.
Là, on a bien vu que ces politiques menées par toutes ces organisations, toutes ces structures extrêmement développées, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, visent in fine à dépolitiser ce débat.
Oui, alors c'est une fausse dépolitisation, dans le sens où, en fait, c'est très politique, en fait.
En tout cas, à
présenter le débat comme étant non politique.
Voilà, c'est ça. Mais grâce à ton travail, on se réapproprie justement les éléments qui permettent de repolitiser, finalement, en sachant bien quels sont les intérêts des uns et des autres et quels sont les points de dissensus et de conflit. Oui. Parce que finalement, là aussi, il y a des conflits d'intérêts et des conflits de classe. On en revient à ça.
Et je pense qu'inévitablement, de toute façon, le débat, il va se politiser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à une phase qui, pour moi, est très différente d'il y a 15 ans. Je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, l'enjeu, c'était de faire en sorte que l'enjeu climatique soit pris au sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus, à part quelques fous, sur la question du climat, il y a un consensus sur le fait qu'il faut agir. Mais justement, là où on va voir une repolitisation, c'est dans la question de quelle solution, en fait, on veut mettre en œuvre. Quelle transition est-ce qu'on veut porter? Et ça, de fait, ça va inévitablement amener une forme de repolitisation du débat. Parce que, en fait, il y a des choix qui vont être faits. Et du coup, telle transition ou tel projet de transition, il va, en fait, bénéficier tel groupe d'individus plutôt que tel autre. Donc, en fait, pour moi, la politisation, elle est presque inévitable. Et on commence à le voir, d'ailleurs, y compris parmi les mouvements écolos, qui traditionnellement étaient un peu plus frileux, en fait, sur ces questions-là. En fait, on commence à les voir prendre position, participer au cortège lors des manifestations contre la réforme des retraites, commencer à aussi construire des liens et construire des alliances avec, en fait, des organisations syndicales, avec des organisations qui sont beaucoup plus politiques. Donc, je pense que, voilà, moi, j'ai quand même espoir, finalement, que la repolitisation, sans mon livre, elle a lieu de toute façon, quoi. Et c'est pour ça que, je suis quand même assez optimiste, en fait, de ce point de vue-là.
Ce que je voulais dire, et je le répète encore une fois, c'est que ton livre, et il y a certainement d'autres sources, bien sûr, mais il nous donne des outils, d'abord pour comprendre tous les tenants et aboutissants de tous ces débats qui nous semblent à la fois trop techniques et parfois assez abscons, faut bien le dire, mais aussi pour se réapproprier les termes de la vraie discussion et la ramener sur le champ politique. Oui. Juste la conclusion, la dernière phrase de ton livre, fin du monde, fin du mois, fin des ultra-riches, même combat. Je trouve que c'est une conclusion, on ne peut plus radicale, et en tout cas, on espère que ce livre soit diffuse un petit peu partout dans nos milieux pour nous donner une meilleure compréhension et un meilleur meilleure vision, en tout cas d'ensemble, de la teneur de ces discussions qui sont extrêmement extrêmement importantes pour nous et avec une vision à terme. C'est très vite, quoi. On parle de 2030, 2050, c'est demain après demain, Ouais. Merci encore à toi, Edouard. Je rappelle le titre de ton ouvrage, donc Edouard Morena, Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique, c'est aux éditions La Découverte. Tu m'as dit en aparté que tu travaillais sur McKinsey,
oui, là,
c'est
bien ça? Oui, je m'intéresse plus spécifiquement à McKinsey.
Eh bien, écoute, on attend le résultat de ton travail et la porte du studio qui est ouverte si tu veux nous présenter.
Non, et puis merci beaucoup pour l'invitation et aussi pour la technique et tout, c'est super.
C'est nous qui très bien remercions. On va passer une plage musicale, juste pour vous dire que la prochaine émission aura lieu au mois de juillet, le 17 juillet, troisième lundi du mois, et on va laisser la parole à 19h30, on est un petit peu en avance, laisser la parole à nos amis le monde merveilleux du travail. Merci Lulu.
89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.